Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Il y a une heure pour là-bas si j'y suis. Eh bien, figurez-vous que c'est maintenant. Là, c'est parti et que c'est avec Daniel Mermet.
La presse vient de nous apprendre ce que tout le monde savait déjà, à savoir que le Qatar a obtenu la Coupe du Monde 2022 à grand coup de pot de vin. Le nombre de morts sur les chantiers du Qatar d'ici à ce que les stades soient finis est estimé à 2000 environ, ce qui tient du crime contre l'humanité. Pour arrêter ce carnage, il y aura une solution très simple, c'est que les dirigeants des pays qui doivent envoyer des équipes à cette mascarade disent « Eh bien non, la Coupe du Monde au Qatar, c'est fini, on n'enverra pas nos équipes ». Ça sauverait des centaines et des centaines et des centaines de vies. Et pour ça, il faudrait trouver un chirurgien qui leur greffe à tous une bonne paire de couilles. Et ça, c'est beaucoup moins évident.
Vous savez qu'un petit groupe de personnes, je sais pas, ça peut être une famille ou un groupe d'amis, a trouvé un endroit merveilleux où il a passé une très bonne journée. Alors à la fin de la journée, ils disent « Waouh, c'était bien, c'était vraiment chouette, c'était beau ». Et puis il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah ouais, c'était bien ». On y retournera.
Le mercredi 11 juin à 19h au Café Les Ramblas, 40 boulevard Gambetta à Nîmes, tous les auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et ses environs débarqueront avec armes et bagages adéquats, non pas pour soi-disant éliminer le fascisme, comme le prétendent tous les chiens de garde sur tous nos médias depuis 15 jours, mais pour éradiquer le capitalisme, excusez-moi j'ai dit un gros mot, le seul et unique responsable de cette idéologie. Même quand elle s'habille du paravent de la démocratie libérale. On vous attend nombreux, Roland, le bûcheron du Gard.
Depuis de nombreuses années, début juillet, le Cercle des économistes organise les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Une poignée d'économistes habitués à quadriller l'espace médiatique monopolise ainsi le débat public pour délivrer un discours économique indigent. Cependant, la riposte s'organise à Aix et c'est ainsi que des citoyens se regroupent pour créer le collectif Les Déconomistes. Sans aucun financement, les rencontres d'économiques se dérouleront dans les lieux de vie et dans les rues du centre d'Aix-en-Provence du vendredi 4 juillet au dimanche 6 juillet 2014. Rendez-vous sur notre site déconomiste.org. Les plus déconnants ne sont pas ceux qu'on croit. Les plus déconneurs sont parfaitement connus.
Bonjour Monsieur Mermet. Il y a quelques jours, j'ai lu dans Le Parisien que les ouvrières de chez Samsonite avaient été déboutées. Il y a vraiment que dans les contes de fées hein, que David bat Goliath. Je suis vraiment désolée pour elles, pour leur courage, parce que c'est rare que des femmes se battent comme ça. Bravo mesdames, vraiment désolée.
Arthur est la 29e fortune française. Arthur a décidé de mettre cette fortune à l'abri du fisc en se domiciliant en Belgique. Arthur est en train de tourner avec Frédéric Lopez le prochain numéro de En Terre Inconnue. Il n'y a pas un truc qui vous choque là-dedans.
Bonjour, depuis une bonne semaine, on ne parle que du devoir de mémoire vis-à-vis de ces gens qui ont libéré la France. Il n'y a rien de plus normal. Ils ont fait preuve de courage aussi bien en débarquant qu'en résistant à l'intérieur. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas oublier non plus, c'est le devoir de mémoire vis-à-vis des conditions qui ont amené à cette guerre de 39-45, à savoir la crise économique, le rejet, la haine de l'autre, la montée des nationalismes. Et ça, il ne faudrait peut-être pas l'oublier parce que ça commence à sentir de plus en plus mauvais. Au revoir.
Cette guerre, comme la prochaine guerre, est une guerre pour mettre fin à la guerre. Ainsi s'exprimait Lloyd George, Premier ministre britannique, pendant la Première Guerre mondiale. Cette guerre, comme la prochaine guerre, est une guerre pour mettre fin à la guerre. Voilà, c'est la Première Guerre mondiale qui va nous intéresser aujourd'hui, une belle journée de 1916. De 1916, le 1er juillet 1916, sur la Somme, vous voyez où c'est la Somme, Amiens, Péronne, et il est très beau. Et ce jour-là, 20 000 soldats britanniques sont tués, 20 000. C'est la plus grande catastrophe militaire de l'histoire de Britannique, de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, 20 000 hommes dans la journée. C'est c'est pas le plus grand massacre de la Première Guerre mondiale. Le plus grand massacre, ça a été le 22 août 1914. Pensez-y, le 22 août prochain, qui a été le jour le plus meurtrier de l'histoire de France, avec 27 000 Français qui moururent, qui furent tués ce jour-là. Voilà la Première Guerre mondiale. Les chiffres que je vous indique là n'ont aucune espèce de signification. On dit c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et comme le suggère cet auditeur, il faut essayer de comprendre, de donner du sens à ces massacres. Quelle signification ça peut bien avoir? Ça fait un siècle qu'on s'interroge. Oui, 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 c'est pas une histoire morte, classée. Cette Première Guerre mondiale n'est pas un dossier classé, on le voit avec les débats qui s'installent, qui à mon avis devraient faire fureur, entre deux termes. Se sont-ils sacrifiés? Ont-ils été sacrifiés? Je vous dis tout de suite que je suis pour la deuxième interprétation. Ils ont été sacrifiés. Ces 20 000 soldats britanniques tués ce jour-là ont été sacrifiés. Et il se trouve, depuis un siècle, tout un courant extrêmement fort, virulent, pour dire ils se sont sacrifiés. C'est pas du tout la même vision, et je crois que il faut choisir son camp, camarade, entre ces deux interprétations. Il y en a un qui a choisi son camp, c'est Joe Sacco. Ceux qui aiment la bande dessinée voient tout de suite qui est Joe Sacco. Pas seulement de la bande dessinée, mais du reportage dessiné, un très grand dessinateur qui publie un bouquin étonnant, La Grande Guerre, le premier jour de la bataille de la Somme, qui est un livre avec dont les feuillets sont en accordéon, et un accordéon qui fait 7 mètres de long. C'est une feuille au fond de papier qui fait 7 mètres de long et qui représente cette première journée de la bataille de la Somme, ce 1er juillet 1916. Et vous pensez peut-être déjà à la tapisserie de Bayeux. Vous voyez la tapisserie de Bayeux, qui d'ailleurs est une broderie et qui représente aussi une bataille. À chaque fois qu'on parle de la bande dessinée, on dit « Ah ben, le premier récit comme ça dessiné, c'est la tapisserie de Bayeux ». Eh bien, Joe Sacco, s'est inspiré de cette façon de raconter, cette forme de récit dessiné. Sauf que là, il n'y a pas du tout de texte. C'est à vous de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans les dessins. Ce n'est pas des dessins sanguinolents, extraordinaires, qui indignent et qui vous serrent d'émotion. Non, non, vous entrez, un peu comme dans des dessins d'enfants, voyez, d'un album d'enfants, et vous entrez dans ce dessin, dans ces dessins, dans cette longue fresque. Et ce n'est pas tellement l'émotion qui vous saisit. Bien sûr, c'est l'émotion, mais ensuite, vraiment, ça conduit à la réflexion. Tellement c'est les gestes accomplis par les personnages sont pleins de banalités, de raisons d'être, pragmatiques, comme on dit, de nos jours. C'est un très, très beau livre, une suite de dessins absolument formidable, qui figurera cet été dans le couloir du métro Montparnasse. Vous voyez ce long couloir qu'on a dans le métro Montparnasse, là, quand on est sur ces trottoirs roulants. Eh bien, tout le long, sur les murs, il y aura cette fresque qui sera dessinée, la fresque de Joe Sacco, que nous rencontrons aujourd'hui avec l'ami Guive. On l'interroge tous les deux. C'est Guive qui traduit. 1er juillet 1916, beau temps sur la Somme. J'ai oublié de préciser concernant les ouvrières samsonites, nos amies. Effectivement, elles ont perdu à Boston, mais elles rebondissent et elles attaquent d'une autre façon avec leur avocat sur un tribunal qui est à Londres. On vous donnera des précisions. Et encore une autre précision concernant les maisons de retraite. Et toutes ces questions, on vous a fait une série de reportages sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur la-bas.org. Je crois que c'était en 2009. On a fait une série de reportages, c'était Charlotte Perry qui avait fait ça.
Voilà les amis, donc nous partons sur le front de la Somme. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et à tous les AMG. Ce mercredi 11 juin, le café repère du Cellier dans les Côtes d'Armor se réunit pour parler de l'addiction. Vaste sujet. Il y a tellement d'addictions possibles. La clope, la bibine, les jeux vidéo d'argent, la dope, du roumol, le cul, l'addiction. Est-ce une affaire de société, une affaire de famille, une affaire de comportement déréglé ou de manque? On en discute ce mercredi dès 19h30 au Cellier avec la participation d'une intervenante de prévention de l'ANPA, l'Association Nationale de Prévention en Alcoolologie et Addictologie.
Bonjour à toutes et à tous, AMG Brétiliens et Brétiliennes. Le café repère du bar L'Entretemps à Liffré se réunira le mercredi 11 juin à partir de 19h. Le thème de ce mois-ci sera le grand marché transatlantique. Attention, danger. Pour nous aider à comprendre tout ça, nous visionnerons deux vidéos pédagogiques. Le traité transatlantique en 10 minutes et une conférence de Frédéric Vial, le grand marché transatlantique, danger pour la démocratie. Et puis ensuite, comme d'habitude, nous discuterons autour d'un verre. Nous vous attendons le mercredi 11 juin à partir de 19h au bar L'Entretemps à Liffré.
D'énormes canons au premier plan qui sont tirés par des sortes de chars, qui sont comme des rouleaux compresseurs. On va bombarder les Allemands, on va en faire du pâté, et après on pourra avancer.
The idea was a 5-day bombardment. It turned into a 7-day bombardment because there was some rain and they had to delay the battle.
C'est exactement ça. L'idée au départ, c'était 5 jours de bombardement intensif.
No one had ever seen anything quite like this.
Et à l'époque, c'était du jamais vu. On n'avait jamais fait un tel bombardement.
Nos amis anglais avancent. C'est absolument impressionnant. Il y a des milliers d'hommes qui sont engagés dans cette histoire. On dit qu'on, à partir d'un certain niveau, on s'entendait plus penser. Mon père disait ça. On s'entendait plus penser.
Oh, wow, that's interesting.
Et il disait, comme tu sautes, tu vois, comme tu sautes de la tranchée comme ça, là, l'odeur, il y a une odeur de merde. Parce que tous les gâchis dans leur froc. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Ventil et Joe Sacco. 1er juillet 1916, beau temps sur la Somme. Joe Sacco, alors, moi je me demande quelle journée a fait le plus de morts. Si c'est le 22 août 1914, 25 000 morts ce jour-là, ou si c'est le 1er juillet 1916, 22 000.
There was a day, actually, in 1914, I think the French lost 27,000 killed.
Oui, c'était en 1914, je crois, un jour où les Français ont perdu en une journée 27 000 hommes.
27 000 hommes.
And people forget that the French losses at the very beginning of the war were staggering.
Et les gens oublient l'ampleur des pertes françaises au tout début de cette guerre.
Oui, on oublie parce que on essaie de nous faire croire que les combattants, que ce soit les Anglais ou les Français, se sont sacrifiés pour nous. Alors que moi, je considère qu'ils ont été sacrifiés par le pays.
Well, I do think that people need to feel that they suffered something for a reason. I mean, I think it becomes part of the whole ideological story of why we fight war.
Une des raisons idéologiques qui fait qu'on combat des guerres, c'est que les gens ont besoin de se dire à un moment ou à un autre qu'ils se battent pour quelque chose.
Mm-hmm. Pour toi, quelles sont les causes de cette guerre?
You know, if ever a war shouldn't have started, it was the First World War.
S'il y a bien une guerre qui n'aurait jamais dû démarrer, c'est bien la guerre de 14-18.
No European country had territorial ambitions at that time. There were no outstanding territorial claims.
Il n'y avait pas de revendications territoriales, il n'y avait pas d'enjeux de conquête dans aucun des pays européens au début de la guerre.
The Germans had Alsace-Lorraine, but it wasn't a contentious moment. 1914.
Bien sûr que les Allemands occupaient l'Alsace-Lorraine, mais ce n'était pas non plus la raison principale, le contentieux.
But you have countries competing imperially, each trying to sort of develop themselves as great powers, and inevitably something's going to happen.
Mais par contre, il y avait les ambitions impérialistes de beaucoup de pays qui voulaient chacun devenir un poids lourd en termes d'influence, et donc forcément, à un moment ou un autre, ces ambitions se rejoignent.
Ce qui est terrible, c'est de voir comment les luttes sociales, de l'anarcho-syndicalisme et les mouvements socialistes en France, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, étaient très puissants avant la guerre.
Well, this is the great disappointment, actually, because I think if there was ever a time when you could say workers could have had solidarity across borders, it was this time. Because in those days, workers, as you know, were more well-organized centrally in factories. It was more likely that they could be organized.
C'est d'autant plus malheureux que s'il y avait bien un moment où les travailleurs pouvaient s'unir au-delà des frontières contre cette guerre, c'était bien à cette époque-là, où le mouvement syndical était beaucoup plus structuré, organisé dans les usines.
And of course, there were those great leaders like Jaurès here. Is that how you pronounce it?
Jaurès.
And social democrats in Germany and others who were working against the war.
Avec en plus des grands leaders de l'époque, que ce soit Jaurès ou les sociodémocrates en Allemagne, qui se battaient contre cette guerre.
On parlait de Ward Zinn, que tu connais bien, et il dit que le patriotisme a lutté contre le socialisme et que le patriotisme a paralysé le socialisme.
I think that's exactly true. I mean, really, patriotism, the idea of nationality, the ideology of it seemed to very quickly obliterate comradeship among workers.
Oui, c'est incroyable, c'est de voir comment l'idéologie, le nationalisme, a brutalement effacé tous les liens de camaraderie qu'il y avait entre les travailleurs.
Brutalement, pour ce qui concerne la France, pas si brutalement que ça, parce qu'il y a eu presque 40 ans de militarisation des esprits.
That's right. I mean, conscription was introduced after the Franco-Prussian War.
Bien sûr, c'est vrai tout à fait. D'ailleurs, c'est après la défaite de 1871 que la France a commencé le service militaire.
And there's a great scene in Ferdinand Céline's book Mort et Crédit.
Mort à crédit.
Mort et crédit. The very first scene where he's at a cafe and they're watching volunteers marching by.
Voilà, il y a une scène comme ça très 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 puissante dans Mort à crédit, au tout début de Mort à crédit de Céline, où les deux protagonistes sont assis à une terrasse de café et ils voient les volontaires qui défilent dans les rues pour aller s'engager dans l'armée.
And he and his friends suddenly just join them and they march with them into the barracks and then the doors close behind them and suddenly they realize they're in the army.
Et eux, ils suivent le mouvement euphorique jusqu'à la caserne et les portes se referment derrière eux et ça y est, ils se rendent compte qu'ils sont pris dans l'armée.
As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
Alors, on commence l'histoire.
Sure.
Ok. 1er juillet 1916, la Grande Guerre, le premier jour de la bataille de la Somme. Ça, c'est notre ami le général Haig.
Yes, General Haig was the commander-in-chief of the British Expeditionary Force in France at the time. In other words, he was the commander of British forces in France.
General Haig était le commandeur suprême des forces britanniques en France à l'époque.
And I have my own opinions about General Haig, but I wanted to be very detached and not make judgments about this individual.
J'ai une opinion très arrêtée sur cet individu, mais je voulais pas justement connoter trop, je voulais pas la marquer trop dès le départ du livre.
I show him coming out of church, I show him taking his 4-minute walk around his château, and I show him taking his daily ride.
Donc je l'ai montré sortant de l'église, je l'ai montré en train de faire sa balade de 4 minutes quotidienne autour de son château, et après en train de chevaucher un cheval.
And if you can say one individual is responsible for the battle, it would be General Douglas Haig.
Parce que s'il faut trouver un individu qui soit responsable de la bataille de la Somme, c'est lui, le général Haig.
Il faut rappeler que nos généraux aussi, à nous, Joffre, Foch, Nivelle, Pétain, etc., avaient les pleins pouvoirs, donc la pleine responsabilité de ces opérations et de cette guerre. Il est quelle heure, là, quand le général Haig fait sa promenade de 4 minutes?
I think it was 8 in the morning. He always took his walk at the same time. He lived by routine.
Je crois qu'il était 8h du matin parce qu'il faisait sa balade tous les jours à la même heure et c'était vraiment les routines qui dictaient sa vie.
And he was a cavalryman. And his goal in the battle, his idea was the soldiers would take the trenches in front of them and then the cavalry would go through the gap and suddenly this static trench warfare would become a war of movement again.
Et lui, c'était un homme de la cavalerie. Et donc, sa vision de ce combat-là, c'était que les troupes au sol prendraient les tranchées et ouvraient une brèche pour que la cavalerie puisse s'y engouffrer. C'était l'idée de sortir de cette guerre de tranchées, cette guerre de position, pour aller à nouveau sur une guerre de mouvement.
Alors, la journée commence bien. C'est très paisible, hein. Tu représentes les troupes qui avancent très paisiblement, les charrettes, les chevaux, les motos. Ça va très très loin. On a là presque les paysans de l'Angélus de Millet qui sont en train de travailler dans les champs. Tout va bien.
Right. I wanted to show the slow build-up. I wanted to show the organization. And just the huge human undertaking that's war.
Ouais, je voulais montrer justement la lente montée en puissance, tous les préparatifs et surtout tout l'effort humain que c'est de faire la guerre.
Ce qui est incroyable, c'est la précision de ta documentation sur les uniformes, sur les armes, sur les véhicules, sur les chevaux, sur les motos, sur le réservoir de la moto. Tout est d'une précision extraordinaire. La dame qui est à la fenêtre, la végétation, là, c'est très, très précis. Toi, tu connais le nom de cet arbre-là, de celui-là, etc. Avec quoi tu es parti? Avec quelle documentation tu es parti?
Well, I went to the Imperial War Museum in London and I spent a week in the photo archives there.
Je suis allé dans les archives du Musée impérial de la guerre qui est à Londres. J'y ai passé une semaine dans les archives photographiques de l'époque.
You know, I soon realized that you just couldn't just draw a cart, that they actually had a very specific cart called the G4 wagon.
Et je voyais qu'on ne pouvait pas faire dessiner n'importe un chariot, n'importe lequel chariot ou n'importe quel véhicule. C'était le modèle G4 qui était employé et pas un autre.
And then you have to, you know, you start to draw a horse and you start to think, okay, what does the bridle look like? What does the saddle look like? You can't just draw something inaccurate. I mean, I have a very journalistic mind, so I try to be as accurate as possible. So there are many visual questions I had to answer.
Et par exemple, quand on commence à dessiner un cheval, il y a forcément un moment où on se pose la question, mais comment sera le harnais, comment sera la selle? Et donc du coup, comme moi j'ai une formation journaliste et une approche journalistique, je voulais être précis et détaillé.
Oui, non, mais d'accord, mais même l'architecture, même la taille des gouttières, la taille de la cheminée, les portes pour la grange, etc. Alors, il y a un côté plaisir, là, il y a un côté plaisir, on s'amuse, on s'émerveille, on tourne la page, ils avancent. Voilà, et là on voit toute la cavalerie, c'est extrêmement précis, les militaires qui soignent les chevaux, les véhicules militaires, les camions. On continue le déroulement de la journée et le déroulement de ton récit, le déroulement de ta fresque de 7 mètres de long. Et là, tu dessines d'énormes canons au premier plan qui sont tirés par des sortes de chars, qui sont comme des rouleaux compresseurs. Là, quel est l'enjeu finalement? L'idée, c'est que on va bombarder les Allemands, on va en faire du pâté, et après on pourra avancer.
Well, that's exactly it. The idea was a 5-day bombardment. It turned into a 7-day bombardment. because there was some rain and they had to delay the battle.
C'est exactement ça. L'idée au départ, c'était 5 jours de bombardement intensif qui ont finalement été portés à 7 jours de bombardement parce qu'il y a eu de la pluie, des intempéries.
And at the time, it was an unprecedented bombardment. No one had ever seen anything quite like this.
Et à l'époque, c'était du jamais vu. On n'avait jamais fait un tel bombardement.
But many of the shells were defective. And many of the shells weren't the sort of shells that would destroy trenches.
Mais simplement, beaucoup des obus étaient défectueux, n'ont pas explosé, ou alors c'était d'un mauvais modèle qui n'était pas opérant sur des tranchées.
Or they wouldn't cut the wire, the barbed wire in front of the German lines.
C'est les bombes qui étaient envoyées n'étaient pas efficaces pour détruire les champs de barbelés qu'il y avait avant les positions et les tranchées allemandes.
And the Germans would dug very deeply. The Germans had very good defensive positions, many meters underground. The British were never encouraged to build very strong defensive positions because they always wanted, the British soldier always had to be offensively minded. You don't want to build defensive positions if you're supposed to be capturing the enemy trenches.
Et les Allemands avaient des positions très très bien construites, très très bien établies avec des tranchées et tout un réseau souterrain profondément ancré, alors que les Britanniques, eux, avaient toujours cette option d'une guerre d'offensive, toujours foncée droit devant, et donc du coup ils n'avaient pas des positions aussi fortifiées.
Alors, nos amis anglais avancent, c'est absolument impressionnant, il y a des milliers d'hommes qui sont engagés dans cette histoire. Là, c'est très paisible, hein. Tout ça est très très paisible, c'est très joyeux, voilà ceux qui partent vers le front, et je souris, et je rigole, et on est en forme, etc. Là, c'est la cantine, on s'aligne pour, c'est comme le self-service, comme chez Starbucks, Oui, non, c'est Starbucks.
Mais quand même, on voit les premiers canons qui commencent à tirer au loin.
Right, we're getting close. The troops are starting to move through the artillery lines.
Voilà, les troupes passent les lignes d'artillerie qui étaient à l'arrière.
And I wanted to show them being fed. I wanted to show just the normal activities that go on. Again, the idea that war is a huge human undertaking with a lot of logistics and a lot of administration.
Et je voulais vraiment insister là-dessus, sur toute la logistique, toute l'administration, tous les moyens mis en œuvre pour faire la guerre à l'arrière, tout ce qui était fait pour pouvoir se battre.
Mais tranquillement. On a l'impression de voir une usine, quelque chose de paisible, de routinier, de banal.
Well, ultimately, that's true. And, you know, I show the soldiers enthusiastically marching to the front, because when we were talking about the artillery and the huge bombardment, many of them were told they wouldn't find a living German in the trenches.
Mais c'est parce que c'est exactement ça. Et quand je vois montrer des soldats joyeux allant au front, tout souriant, c'est parce que c'est ce qu'on leur avait dit et c'est ce qu'ils croyaient fermement, c'est que tout ce qu'ils allaient trouver, c'était de la bouillie d'allemand dans les tranchées.
Gentlemen, the Right Honorable, the Lord Mayor of London, will now address you.
Messieurs, le très honorable Lord, maire de Londres, va s'adresser à vous.
Young men of famous London.
Jeunes hommes de la célèbre ville de Londres.
Sir Charles Wakefield, 1916.
Your comrades have gone forth to fight.
Vos camarades sont partis au combat.
We must fill the gap.
Nous devons combler les vides.
We must keep the ranks.
Nous devons garder les rangs au complet.
It is the business of every citizen.
C'est le devoir de chaque citoyen de Londres d'aider.
I have opened our mansion.
J'ai ouvert un bureau.
I will be there every day to welcome.
Et nous y serons chaque jour pour accueillir ceux qui viendront se mettre au service de leur roi et de leur pays.
Come and do your duty.
Venez et accomplissez votre devoir.
Your comrades. From the trenches.
Vos camarades des tranchées vous appellent. Entendez.
And obey their call.
Et obéissez à leur appel.
Un million, 732 873 obus furent tirés sur les lignes allemande. 1 732 873 obus. La veille de l'attaque, on en était à 3 500 coups par minute. Il y avait 5 obus pour chaque soldat allemand de l'autre côté. Le sang sortait, coulait des oreilles des artilleurs, tant on tirait, mais on était serein. C'était une évidence, il n'y aurait plus que de la bouillie de l'autre côté. C'était gagné d'avance. Au dernier moment, on ferait des tirs de shrapnel, vous savez, ces obus qu'on lance horizontalement contre les barbelés. On n'avait pas besoin d'y aller d'une façon désordonnée et dépenaillée. Non, 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 on irait en marchant au pas, 90 hommes tous les 90 mètres. Tout cela avait été écrit, planifié, on était sûr de la victoire. 20 000 soldats britanniques furent tués cette première journée. Durant les 5 mois de la bataille de la Somme, c'est 1 million au total d'hommes britanniques, français et anglais qui moururent la gueule ouverte.
La nuit descend. Il y a des soldats qui sont, on appelait ça la feuillée, les feuillées, c'est-à-dire qu'ils sont aux toilettes, les latrines. Là, il y a des... C'est comment on appelle l'armée coloniale?
Yes, they're Indian cavalry.
C'est la cavalerie indienne, oui.
There was an Indian unit of cavalry waiting behind the lines and a couple of British units too. And they were the ones that were supposed to go through this gap that was going to appear in the German lines.
Voilà, il y avait des troupes de la cavalerie d'Inde et puis aussi britannique qui étaient là et c'était elles qui étaient censées foncer une fois que la brèche serait ouverte par l'infanterie.
Enfin, c'est encore calme, ça tire au loin, les bombardements continuent, mais enfin, ça n'empêche que les gars sont en train de jouer aux cartes, là, ou en train de faire de dîner, tranquillement, sur un brasero. On n'est pas très inquiet encore, hein, on est très, très paisible. C'est peut-être le flegme britannique.
Yeah, I think so. I mean, that's part of how it works. You know, you try to make it as normal as possible. I'm sure the men were getting scared.
Bien sûr que les hommes avaient peur, mais je sais et je suis sûr que c'est comme ça qu'on fait, faire comme si c'était normal dans ce genre de situation.
No matter how much they were assured that they would march into the enemy trenches, I'm sure there were many individuals that were thinking, okay, now we're really coming to it.
Même si beaucoup étaient convaincus qu'ils allaient avoir un boulevard pour aller jusqu'aux tranchées ennemies, je sais très bien qu'au fond d'eux-mêmes, beaucoup se disaient, maintenant, ça y est, ça devient sérieux.
Ça devient sérieux. La nuit est tombée. Et là, on va attaquer. Combien d'hommes étaient engagés dans cette bataille?
Well, there were hundreds of thousands involved, but in the initial assault, 120,000 troops were supposed to leave their trenches. Not all of them got out of their trenches.
Il y avait des centaines de milliers de soldats pour toute l'offensive, mais pour la première offensive du premier jour, c'était prévu que 120 000 soldats sortent des tranchées pour marcher sur les positions allemandes. Mais pas tous n'ont pu sortir.
Là, ça bombarde sérieusement. Le bruit doit être terrible.
It must have been terrible. And when you read German accounts, many of them survived the bombardment, but obviously some of them went insane because after 7 days of bombardment, it's driving you crazy. You can't sleep.
J'ai lu des récits du côté allemand de ce bombardement. Et beaucoup, même si beaucoup ont survécu parce qu'ils étaient vraiment bien enterrés, beaucoup sont devenus fous après, à force de ces 7 jours de bombardement consécutif et du bruit que ça fait.
Et on dit qu'à partir d'un certain niveau, on s'entendait plus penser. Mon père disait ça. On s'entendait plus penser.
Oh, wow, that's interesting.
Et il disait, quand tu sautes, tu vois, quand tu sautes de la tranchée comme ça, là, l'odeur, il y a une odeur de merde. Parce que tous les gars chient dans leur froc.
I can only imagine. I can't imagine doing what the men did in those days. Because it seemed like certain death.
C'est même dur d'imaginer ce qu'ils ont fait, parce qu'ils allaient vraiment à la mort certaine, ces gars-là.
Oui, mais mon père disait, t'avais deux ennemis devant l'Allemand et derrière les gendarmes français. Mm. Ils avaient un revolver.
Right. I actually show a British military policeman at the entrance of the trench later.
Et d'ailleurs, justement, je montre un membre de la police britannique un peu plus loin, quelques pages après, dans les tranchées, qui est en train de brandir son arme sur les soldats.
Le premier grand reportage de guerre est tourné par l'armée britannique.
14-18, le bruit et la fureur.
Puis projeté dans toute l'Angleterre, dans des camions sillonnant les campagnes et dans les salles de cinéma.
Un film de Jean-François Delassus, 2014.
Ce film récolte un succès incroyable. 10 millions d'Anglais le voient. Et ils voient quoi? Des Tommies, forts d'une gigantesque préparation d'artillerie, se lancer en ce 1er juillet 1916 dans un assaut qui doit les mener tout droit à la victoire. Cruel revers, dès la première heure, 10 000 Britanniques tombent. Dès le premier jour, 20 000 perdent la vie. Au lieu de constater l'échec, le commandement anglais s'obstine encore et encore. 5 mois de plus.
Là, on part à l'assaut, mais c'est encore une fois très flegmatique. Il y a un gradé, un petit gradé là, qui est avec sa pipe. Ceux-là ont l'air de monter assez paisiblement. C'est pas un assaut très violent.
Well, you know, as I said, mostly the soldiers were volunteers, and the British officers, the high command, was worried that these inexperienced soldiers wouldn't advance in a proper way. So they told them walk. You know, line up and walk toward the lines.
Beaucoup de ces soldats, comme c'était des volontaires, les officiers étaient assez inquiets justement de leur manque d'expérience et sur leur comportement sur le champ de bataille. Donc ils leur avaient donné des consignes très strictes. Vous vous mettez en ligne et vous marchez vers les positions allemandes.
Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font et ils commencent à mourir.
Well, it took some minutes or so, a couple of minutes maybe, for the Germans, once the bombardment stopped on the front line, the German soldiers knew, okay, here comes the attack. So they go up the ladders to their, up from the bunker, they man their machine guns and they man the trenches, and then they start firing.
Une fois que les bombardements ont cessé, les Allemands se sont dit, ça y est, c'est maintenant qu'ils vont lancer l'assaut. Donc qu'ont fait les soldats? Ils sont sortis de leur bunker, le long des échelles, ils ont monté leurs mitrailleuses, ils sont mis en position, prêts à tirer sur les Britanniques.
And then the German artillery, which had remained relatively silent through most of the British bombardment, began firing into no man's land.
Et à ce moment-là aussi, c'est là où l'artillerie allemande, qui était restée assez silencieuse et assez discrète pendant les bombardements anglais, l'artillerie allemande a commencé à tirer, mais dans le no man's land, là où avançaient les soldats britanniques.
Et ça fait des dégâts. Là, ça commence à être... C'est le grand massacre qui commence.
Yes, and the casualties were really enormous. The estimates are that in the first hour, 10,000 British soldiers were killed.
Oui, et les estimations de ce massacre sont que dans la première heure de cette offensive, plus de 10 000 soldats britanniques sont morts.
And when I speak to American audiences that don't understand the scale of this, I say you take every American serviceman killed in Iraq and Afghanistan, and that's less than British soldiers killed in the first hour of the Battle of the Somme.
Et quand je parle de ça à des publics états-uniens, par exemple, qui ont du mal à voir ce que c'est 10 000 morts, mais je dis, vous prenez toutes les pertes américaines pendant la guerre d'Afghanistan, plus toutes les pertes américaines pendant la guerre d'Irak, c'est moins que ce que les Britanniques ont perdu en une heure ce jour-là.
And what we have to remember is that the generals didn't really change their tactics because the battle went on for 4.5 months.
Ouais. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les généraux n'ont jamais changé leur tactique. Cette bataille de la Somme a duré 4 mois et demi à ce rythme-là.
We're here because we're here, because we're here, because we're here. We're here because we're here, because we're here, because we're here. We'd be far better off, far better off, far better off in a hut. Here we are, here we are, here we are again. Hello, 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 hello. Here we are, here we are, here we are again. Hello, hello. Hello, 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 hello.
Woo! Là, ça continue donc.
Here I'm showing the Germans began firing also at the British trenches, and many British soldiers were killed before they went over the top.
Et là, on le voit, c'est le moment où l'artillerie allemande commençait à tirer à l'intérieur des tranchées britanniques, et où beaucoup de soldats ont été tués avant même de pouvoir commencer à monter au front.
Dans la tranchée.
Well, here we have a battalion aid station, still within artillery range, but toward the rear of the trenches. And this would normally be for minor wounds, but
obviously overwhelmed immediately with critical cases.
Là, c'est l'infirmerie qui est à l'arrière des tranchées, toujours à côté des pièces d'artillerie, qui normalement étaient là pour soigner les blessés mineurs, mais qui a été immédiatement débordée par des blessés très graves.
Dans le chapitre qu'il consacre à la Première Guerre mondiale, dans son livre sur l'histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn explique que dans un premier temps, pour s'engager dans l'armée britannique, il fallait faire 1m72, pas en dessous d'1m72. Et puis il y a eu tellement de morts qu'on a dit, bon, allez, 1m66. Et puis il y a eu tellement de morts qu'on a accepté 1m60.
Yeah, if you see the size, they wanted the best specimens. And as time went by, they kept reducing the size you had to be until they had what they called bantam units. And it was men about 5 feet tall.
Oui, on voit très bien ça, comment au début, ils voulaient les spécimens, les individus les mieux constitués pour aller. Puis au fur et à mesure, leurs critères diminuaient au point qu'après, il y avait quelques unités où c'était les unités presque des nabos, où c'était que des individus de petite taille.
An interesting thing is, at the beginning of the war, the average British soldier who was working class was 4 inches shorter than the average British officer who came from the upper class because the diet was so different.
Ce qui est intéressant de noter aussi à l'époque, c'est que le soldat, le troufion moyen, faisait presque 10 cm, 8 cm de moins que l'officier de base dans l'armée britannique à l'époque. Et ça, c'était juste à cause de la différence de régime alimentaire.
Another interesting point, though, is that the junior officers, the ones who led the men into battle, had higher casualty rates than their men. When you have to separate the high command from the junior officers.
Mais il faut bien faire la différence aussi entre le haut commandement et les officiers des troupes, qui étaient proches des troupes, qui ont eu, eux, plus de pertes que les soldats.
They led from the front, the young lieutenants and captains.
C'est tous ces jeunes lieutenants et jeunes capitaines qui menaient leurs troupes au front, en première ligne.
It's true for the German army and the French army as well. The young lower officers were killed in proportionately in greater numbers than the soldiers.
Et c'est vrai aussi pour l'armée allemande et l'armée française, c'est que les jeunes sous-officiers avaient proportionnellement plus de pertes que les soldats.
On m'a demandé de vous raconter ce que nos gars font pour la France.
Major Rhys, 1917.
J'étais dans l'armée quand la guerre a éclaté. Je suis parti en France le 13 août 1914, 9 jours après la déclaration de guerre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons enduré.
Là, c'est après la bataille. On emmène les blessés. On continue de tirer.
Yeah, the cannons are still firing, that's right.
La bataille va durer combien de temps au total, la bataille de la Somme?
4.5 months. The battle ended in November 1916.
4 mois et demi, et la bataille a cessé en novembre 1916.
Et combien de victimes, pour quel bilan?
I think it was from all sides, French, Germans and British, I think it's about 1.5 million.
Si on additionne les soldats britanniques, français et allemands, on arrive à peu près à 1.5 million de pertes.
Et là, les derniers dessins, c'est des blessés alignés, qui attendent leur transfert vers de problématiques d'hôpitaux. Et là, les derniers dessins, tandis que la troupe repart, c'est quoi cette troupe là?
They're going to the front. Because more, obviously the battle went on, and I wanted to suggest that more people will be fed into the furnace. Despite the mistake, despite the casualties, you throw more troops into it.
Là, on voit au premier plan les tombes des soldats avec des croix en bois. Et à l'arrière, on voit ces troupes. Et ces troupes, elles marchent vers le front. Je voulais bien montrer que malgré toutes les erreurs qui étaient faites, malgré toutes les approximations et malgré le bain de sang que c'était, on continuait à nourrir la bête. On continuait à envoyer tous ces soldats à l'abattoir.
And within a couple of weeks, the generals have decided that, okay, this is not about a breakthrough. The battle is now about killing more Germans than we're losing.
Et après à peu près 2 semaines, les généraux ont fini par admettre qu'ils ne vont pas réussir à faire une percée et ça ne va pas être une offensive éclair. Maintenant, le but du jeu, c'est que les Allemands aient plus de pertes que nous. Voilà le seul objectif de cette bataille.
Et ici, on enterre les hommes dans des tranchées. Il y en a un qui est crevé là parce qu'il creuse. Moi, je voudrais bien rester sur cette image du type qui est en sueur tellement il a de boulot à creuser pour enterrer ses copains.
It was a hot day.
Et en plus, c'était un jour où il a fait très chaud.
On fabrique des croix, on enfonce des croix. Là-bas, on fait un petit feu, une cheminée. Pourquoi la cheminée, là?
Qu'est-ce qu'on brûle dans cette...
Well, it could be clothes, it could be limbs that were amputated.
Alors, ça peut être des vêtements, et puis aussi des membres amputés qui sont brûlés dans ce feu.
Combien de temps t'as mis pour faire ça?
The drawing took 8 months.
Le dessin lui-même m'a pris 8 mois. 8 mois à dessiner.
Et alors, on apprend que tu y vas une grande fresque au métro Montparnasse avec tes dessins. C'est-à-dire qu'il va y avoir des centaines de milliers de voyageurs qui vont voir.
Yeah, and you know, I have to say, I'm really pleased with this, and I'm really proud of this because I really think that art should also be made public. And sometimes these sorts of drawings, the originals, are put into a museum or put on a gallery wall. But it's better if the average person sees these things.
Et je suis très content et je suis très fier de ça. Parce que je pense que vraiment l'art doit toucher le plus grand nombre. Et plutôt que faire comme beaucoup de mettre les originaux dans des galeries ou des musées privés, je pense que le principal souci, c'est que ces dessins arrivent jusqu'au plus vaste public possible.
I wanted to show how the soldiers went enthusiastically into this. They didn't really, I think, understand.
Je pense que je voulais montrer vraiment comment le premier jour, les soldats sont allés avec enthousiasme. Ils ne savaient pas ce au-devant de quoi ils allaient. Ils ne savaient pas ce qui les attendait.
And I think what I wanted to show is how that enthusiasm met the reality of the industrial age.
Et ce que je voulais montrer, c'est comment cet enthousiasme s'est confronté à la réalité de l'âge, de l'ère industrielle.
Tu es allé te promener un peu dans la région?
Back in the early 90s, I hitchhiked over there. And I spent 2 days in the Somme area, and I just visited Commonwealth graves, the graves of the soldiers.
Au début des années 90, j'ai fait de l'autostop dans la région, et je suis allé passer 2 jours justement dans la Somme, où je suis allé visiter les cimetières des membres du Commonwealth, les Britanniques.
And so I walked over the ground. You could still find then, and probably now, pieces of shrapnel from the battle.
Et j'ai marché sur le champ de bataille, où on pouvait encore à l'époque, et peut-être aujourd'hui, trouver des morceaux de shrapnel sur le champ de bataille.
C'est, symboliquement, c'est terrible. C'est que la terre ne veut pas avaler cette histoire.
Elle rejette, vomit.
Yeah, it's vomiting. Yes, that's right. The earth vomits this memory somehow.
C'est ça, d'une certaine manière, la terre vomit cette mémoire.
Et pour finir, je vais te montrer quelque chose. Tout ça, c'était la guerre pour la civilisation. Ça, c'est un cadeau que mon père m'a fait.
Wow, the war for civilization. Yes. The great war for civilization. That's oui. The same in English. They use the same phrase.
Il y a la même phrase qui est utilisée dans les médailles britanniques.
Oui.
La grande guerre pour la civilisation.
La grande guerre pour la civilisation.
Yeah. And you know, if the Germans had won the war, they would have presented the same medal to their soldiers.
Et tu sais que si les Allemands avaient gagné cette guerre, ils auraient offert les mêmes médailles à leurs soldats.
Bien sûr. Et tu sais ce qu'ils avaient sur le ceinturon, les Allemands? Gott mit uns.
God with us. God is with us.
Dieu est avec nous.
God with us. On est pareil.
God changes sides a lot.
Oui, mais le problème avec Dieu, c'est qu'il change souvent de côté.
Ok, merci. No,
merci.
Thank you very much.
God mit uns. Voilà, ça finit bien quand même. Hein. Dieu est avec nous. Et avec vous, chers auditeurs, chers AMG. C'était 1er juillet 1916, beau temps sur la Somme, un entretien avec Joe Sacco, avec Give et votre serviteur, le titre du bouquin de cette grande fresque magnifique aux éditions Futuropolis, le titre c'est « La Grande Guerre, le premier jour de la bataille de la Somme ». J'ai parlé d'un bouquin sur... C'est nous qui avons le record, hein, c'est quand même les Français. Là-dessus, nous, c'est 27 000. Les Anglais, c'est que 20 000 dans la journée. Et nous, c'est 27 000. C'est le 22 août 1914. Un bouquin de Jean-Michel Steig, le jour le plus meurtrier de l'histoire de France, c'est chez Fayard. Beaucoup, beaucoup de bouquins sur ce sujet et beaucoup, beaucoup de bouquins intéressants. Et n'oubliez jamais, une baïonnette est une arme avec un prolétaire à chaque bout. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org. Et faites un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alice Berger et Enzo Labori. L'émission a été réalisée par Lucie Acoun et Franck Aderer. Préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01. 56, 40, 37, 37. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis dans l'immédiat. Je vous laisse avec Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
À Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour.
Bonjour.
C'est pratique, vous appelez Samia, c'est marqué sur votre badge, chargé du fonds documentaire.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous pensons qu'il est important d'avoir une mémoire visuelle de ce que font les femmes autour de la Méditerranée, pour la simple et bonne raison qu'on ne parle pas beaucoup des femmes dans les médias. Donc nous sommes en train de constituer notre propre base d'images, d'interviews, nous filmons nos actions, nous filmons les actions auxquelles nous participons aussi. Nous pensons qu'il est important d'avoir la mémoire de ce que font les femmes autour de la Méditerranée. On a une grille d'analyse comme ça qui nous permet de savoir que ce qui concerne les femmes n'est pas très couvert par les médias. Voilà.
J'ai bien fait de venir alors.
Ah oui, merci.
Je peux rentrer?
Bien sûr. J'ai peur de dire des bêtises.
Non, mais... Et alors, vous, concrètement, vous vivez en Algérie?
Non, je suis en France depuis 20 ans, moi j'ai quitté l'Algérie. Je suis partie d'Algérie en 94, quand il y avait, c'était la décennie noire, c'était en 94, et puis je suis arrivée en France pour quelques temps, et voilà, et j'y suis depuis 20 ans.
Bonjour à tous et bienvenue au Cabaret Sauvage en compagnie de Samia. Donc vous êtes une des organisatrices de cet événement.
Et surtout, c'est une soirée dédiée aux femmes syriennes. Toute la collecte de fonds de cette soirée va aller à des associations syriennes. Nous sommes en train de voir comment, parce que c'est très très difficile en ce moment de faire parvenir de l'argent en Syrie. L'information n'est pas toujours très claire, donc nous sommes en lien avec des personnes pour voir quels sont les projets que nous pouvons soutenir quand on aura eu notre recette. C'est complet ce soir, donc nous sommes contents.
C'est complet, donc en gros, ça représente quel montant pour
votre... Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a des billets à 30 euros, il y a des billets de soutien à 50 euros, et il y a on a fait une offre pour les mécènes, c'est-à-dire qui veulent soutenir les femmes syriennes, donc qui ont payé des tables à 1000 euros. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup.
Malheureusement. Pour une fois, on peut peut-être donner le nom d'un mécène qui a bien voulu payer sa table 1000 euros. On est sur le service public.
Non, mais... je ne sais pas s'ils seront d'accord pour que je donne leur nom, donc je ne peux pas. Je ne peux pas.
Ok, merci.
Qu'est-ce que vous voulez?
Pourquoi vous tapez dans les mains?
Je tape dans les mains parce que je voudrais que les gens rentrent. Voilà, tout simplement. Et que c'est l'heure de reprendre la séance. Merci.
On reprend, s'il vous plaît, on reprend.
Quel est votre prénom?
Samar Diab, de l'association Souria Ouria, ça veut dire Syrie Liberté.
Et vous êtes syrienne?
Je suis syrienne, en fait.
Et vous vivez où?
Je vis à Paris.
Vous avez été obligée de fuir la Syrie ou c'était parce que vous vouliez suivre des études ou...
Non, pas du tout. Je voulais suivre mes études supérieures, en fait. Et je suis venue ici pour continuer mes études supérieures, mais ma famille vit toujours en Syrie.
D'accord. Et quelle est la situation actuelle pour votre famille, par exemple?
Très pénible. En fait, il y a du bombardement partout. Tout ce qui se bat pour la démocratie et la laïcité en Syrie, il est coincé entre le régime, en fait, qui le bombarde, et aussi entre les islamistes aussi. Ça veut dire qu'on est coincé entre les deux.
Entre les intégristes islamistes et
le régime, et qui est dictatorial. Et en fait, on n'a aucune liberté d'expression. Mais en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, en fait, qui est coincée entre les deux, c'est la partie la plus nombreuse en Syrie, mais la moins où elle a besoin d'aide, elle n'a aucune aide. Et en fait, l'effet que personne n'est venu pour la soutenir dès le début, au niveau matériellement, en fait, et support, en fait... On se retrouve avec ce cas-là.
Et alors, vous parlez des intégristes islamistes, et je vois que vous avez une croix autour du cou. Vous êtes chrétienne ou c'est un bijou décoratif?
En fait, moi, je suis syrienne. Et c'est tout. On n'a jamais, en Syrie, on n'a jamais eu un problème syrien, chrétien ou musulman ou druze. On est un mosaïque. C'est un peuple merveilleux. C'est un peuple qui a toujours vécu avant le Baas, avant le Assad, et on vivra après, en fait. Et on est tous des gens qui souhaitent le meilleur pour leur pays. Et on fait tout pour l'aider, avec comme des soirées comme ça, qui est soutenue par les femmes méditerranéennes, en fait. Et c'est génial ce qu'ils font, parce que c'est la société civile qui soutient plus le peuple syrien que les gouvernements occidentaux. C'est plutôt la société civile qui
est plus efficace.
Bien sûr, elle est plus efficace. Le problème, c'est la Syrie, s'il n'y a pas une solution vraiment politique et vraiment un engagement de la part des pays occidentaux pour mettre un terme à cette situation, on peut continuer à demander nos droits et à demander d'arrêter ce qui se passe en Syrie. S'il n'y a pas une volonté, ça peut continuer encore 10 ans, malheureusement.
Mais ce n'est pas dangereux pour votre famille de parler comme ça au micro?
Ben, ma famille, eux, ils ne parlent jamais de ça. C'est moi qui parle, en fait. Mais, et si tout le monde se tait, ben, il peut rester encore 20 ans. Et on veut qu'ils partent le plus rapidement possible.
Si on veut en savoir plus, eh bien, il y a votre association souriaouria.com. Ce sera sur le site de franceinter.fr à l'émission Un temps de pochon.
Un temps pochon, on se termine aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci.
Et vous ? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi le 14 juin pour la journée mondiale des donneurs de sang ? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies ! Venez, on a besoin de vous.
Faisons du 14 juin un grand jour pour la vie. Donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net. Ceci est un message de l'établissement français du sang.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques pour mon mari qui ne fume pas.
Ah oui, vous augmentez de 25% son risque d'avoir un cancer du poumon. C'est peut-être une bonne raison pour arrêter.
Oui, j'ai déjà essayé, mais j'y suis jamais arrivée, en fait.
Oui, mais si vous n'avez pas réussi avant, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
Il est presque 16h. Vous êtes en chemin pour récupérer votre père à la gare. Vous vous dites que limiter cette départementale à 90 n'a pas de sens. Vous vous dites que rien ne vous empêche de rouler à 110. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, vous ne pourrez pas éviter ce tracteur à la sortie du virage. À cause de cet oubli, votre père vous attendra longtemps. Très longtemps.
On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour. Du changement à l'Élysée. Emmanuel Macron quitte son poste de secrétaire général adjoint. Il le dit au journal Le Monde et il sera remplacé par Laurence Beaune, économiste chez Bank of America. David Kessler, lui, conseiller aux affaires culturelles, partira en septembre. Il sera remplacé par Audrey Azoulay, numéro 2 du Centre national de la cinématographie. Autre changement, Nathalie Yanetta, journaliste à Canal+, et spécialiste du foot, remplacera dans quelques jours Thierry Rey, qui était lui chargé des sports. Quant à Claude Sérillon, dont le rôle exact en matière de communication faisait débat depuis son arrivée, eh bien il s'en va également. On parle de lui pour une fonction en rapport avec la francophonie. Le blog vidéo de Jean-Marie Le Pen ne sera plus hébergé sur le site du FN. C'est Valran de Saint-Just qui l'annonce cet après-midi. L'avocat du FN invoque des raisons juridiques. Selon lui, par le passé, la présidente du parti, Marine Le Pen, a elle aussi été visée par des plaintes en tant que directrice de la publication du site suite à des propos tenus par son père. Ne plus héberger le site du père permettra donc d'éviter ce type de mésaventure. Cela fait suite en fait surtout à une nouvelle polémique. Le président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen, a provoqué une vague d'indignation dernièrement et la colère aussi de sa fille après ses propos sur la fournée dans laquelle il suggère de mettre Patrick Bruel, qui est de confession juive. Le fabricant suisse de dosettes Ethical Coffee Company porte un premier coup à Nespresso France et donc à la maison mère Nestlé. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Nespresso, qui appartient à Nestlé, pour concurrence déloyale à 540 000 euros d'amende. ECC, qui commercialise des dosettes de café en France depuis 2010, avait déposé plainte fin 2012. ECC a accusé Nespresso de dénigrer ses capsules par le biais du club Nespresso. Nestlé a déclaré qu'il avait l'intention de faire appel. Sylvie Andrieux sera fixée sur son sort le 23 septembre prochain. Le jugement de son procès était mis en délibéré aujourd'hui. La députée socialiste était poursuivie en appel pour détournement de fonds publics. Vendredi, un an de prison a été requis contre elle, comme lors du jugement en première instance. Les syndicats et la direction de la SNCF s'entendent au moins sur une chose aujourd'hui. La grève qui débute ce soir et qui va se poursuivre toute la journée de demain s'annonce importante. Plus de 4 cheminots sur 10 cesseront dans le travail. La CGT, FO, Sudrail et First ont déposé un préavis pour protester contre la réforme ferroviaire, texte qui doit être examiné la semaine prochaine par les députés et qui est destiné à stabiliser la dette du secteur, mais aussi à le préparer à l'ouverture à la concurrence. Concrètement, pour les usagers, ça va se traduire comme suit. Les perturbations seront importantes dès ce soir, 19h. Comptez un TGV sur deux ou sur trois selon les axes. Les TER en région seront également touchés, idem pour les RER et les Transiliens en région parisienne. La SNCF recommande aux voyageurs de reporter quand ils le peuvent leur déplacement, d'autant que la grève est reconductible par période de 24 heures. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Demain sur France Inter,
Bernard Lavillier en direct des Nuits de Fourvière.
Une soirée présentée par Rebecca Manzoni.
Une rencontre avec Lavillier jusqu'à son entrée en scène, suivie de son concert en intégralité, c'est...
Une soirée à suivre demain sur France Inter, à partir de 22h. France Inter.
La voix est libre.
C'est votre heure, Frédéric Lodéon.
Bonjour, chère Laetitia. On vous retrouve à 17h pour de nouvelles informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Par exemple, je me suis demandé assez longtemps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, comment on a pu voyager pendant des siècles sans avoir de valise à roulettes, vous voyez, tout simplement. Parce qu'on a porté, je fais partie de ces gens un peu nigauds qui ont porté de lourdes valises de nombreuses années. Et puis voilà que quelqu'un, tout bêtement, allie cette petite roue, tout simplement. Deux roues, peut-être, quatre maintenant. Et puis le bagage très lourd, ça simplifie tout. Ben voilà, pour les instruments, c'est pareil. C'est-à-dire que le violon, par exemple, il a progressé beaucoup grâce à Paganini. Paganini, on l'a assez dit, a été une sorte de promoteur incroyable de la technique du violon. Mais avant lui, il ne faut pas oublier qu'il y a des passages de témoins comme ça, un certain Pietro Antonio Locatelli, italien bien sûr, né en 1695, grand voyageur. Eh bien, il avait écrit aussi 24 caprices. Alors, ça ressemble, vous allez entendre d'ailleurs, il y a une grande proximité entre ce 7e caprice de Locatelli et puis le premier caprice de Paganini qu'on va entendre après. Thank you. Un caprice, ça ressemble à du Paganini, mais c'est du Locatelli, 7e caprice en mi majeur, interprété par le jeune violoniste franco-russe Gabriel Tchalik. Et son disque d'ailleurs célèbre, commémore plus exactement, les 250 ans de la disparition de Locatelli, grand virtuose du violon, puisqu'il est décédé en 1764. Et bien tout de suite derrière, voici Paganini, vous avez encore dans l'oreille ce rebondissement de l'archet.